production podcast.
Essaye ça.
Hey, salut tout le monde, Tommy Godette au micro pour une nouvelle édition de Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. Ce que vous entendez en background, c'est l'excellente trame sonore de Super Mario World. Je dirais que tout le monde a joué à ce jeu-là à un moment donné, et c'est le jeu qui a vu la naissance d'un de mes personnages de jeux vidéo préférés, Yoshi. Et d'ailleurs, parlant de Yoshi, Jason Keys, bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe?
J'ai hâte que Nintendo fasse une alliance avec Wizard of the Coast. Ah, on peut drafter le monde.
Ben oui,
quand même. C'est le monde des champignons.
On pourrait se faire une édition spéciale.
Tu peux demander à du monde de faire du Altered Art aussi.
Ben oui, certain, on est capable. Faites-nous un deck de Mario, sapristi. On a Milan, vous l'avez entendu.
Hey, salut.
Salut Milan, qui est technicien officiel de douteux.tv et aussi un des participants à nos soirées de Magic ici au Musée de l'Absurde. On a Caroline.
Je suis une fille et je joue à Magic.
Merci beaucoup, Caroline, d'être avec nous. On va sûrement te laisser plus de temps d'antenne à un moment donné. On aime beaucoup ça que les dames participent à notre aventure. Et on a Laurence là-bas. J'ai pas compris ton nom de famille la première fois.
Boulanger.
Laurence Boulanger.
Oui, je suis encore là.
Un fan de Magic Old School. On a entendu parler la semaine passée, certains. On espère que ton événement va bien aller. Mais cette semaine, on parle pas de ça. On parle de notre premier tournoi chacun. Toi, Jason, ton premier tournoi de Magic.
Écoute, c'était dans le temps que j'habitais à Grande-Rivière, en Gaspésie.
OK.
À Chandler. Mais on a fait le tournoi à Grande-Rivière. On est en 97. C'était dans le temps de Tempest.
OK.
Il n'y avait pas encore eu de tournoi en Gaspésie de Magic à l'époque, as far as I knew. Donc, on avait trouvé quelqu'un qui avait une photocopieuse pour faire la promotion. On a fait un flyer.
Oh.
Un tournoi à l'époque, c'était type 1. C'était toutes les cartes depuis Alpha,
ouais,
tu pouvais
avoir. Il y avait du Restrict, mais sinon, c'est tout. Là.
Ouais, il me semble à l'époque, il y avait juste type 1 et type 2.
C'est ça.
Donc, j'ai encore chez nous l'annonce là, qu'on avait photocopié et on avait mis ça dans les centres d'achat partout. Là, au début, on était censé faire ça à la salle des Chevaliers de Colomb.
Oh, sauter par-dessus la chèvre.
Ils nous ont fait choquer un peu avant la date du tournoi. Fait qu'il avait fallu trouver un plan B. On avait été voir un endroit qui est un club vidéo qui a un salon bronzage dans la cave.
Ah, tu fais avec ce que t'as, hein?
Elle vendait, le club vidéo vendait des cartes Magic, fait qu'il a accepté de nous commanditer la boîte pis tout. Fait que là, il a fallu retourner partout où on avait mis les flyers pour remettre des nouveaux flyers.
Ah, oh, changer
plus
l'endroit.
À la salle des Chevaliers de Colomb, mais à cet endroit-là.
Peux-tu demander pourquoi que les Chevaliers de Colomb, ils ont décidé que...
Passe son colon, hein, c'est ça? C'est...
Non, on pourrait penser que c'est parce que c'est un groupe de chrétiens et il n'y a pas Magic, là, mais il me semblait que. Je pense que c'était des considérations plus logistiques.
Finalement, vous attendez 20 personnes et il y a de la place pour 10.
En tout cas, on avait été une vingtaine, puis celui qui avait gagné le tournoi, c'est lui qui jouait le Winnie blanc avec les White
Knights.
C'est
tout le temps les Winnie blancs qui gagnent.
Il était parti avec une boîte de Tempest chez lui. Ça, c'était mon premier tournoi.
Et voilà, toi, t'as fini combien? T'as joué avec quoi?
Ah, moi, ça n'a pas bien été. À l'époque, je jouais bleu-blanc avec des Sir Angel, puis okay.
Ben tout le monde on le pointe du doigt en riant. Sinon Laurence, ton premier tournoi?
Mon premier tournoi de Magic? Ah c'était... Ah oui, ok, je m'en souviens, ouais. Écoute, je dois avouer que j'avais un deck bleu-blanc des Sir Angels.
Quelle surprise!
On le pointe le doigt puis on rit de lui parce que...
Il a peut-être gagné, lui.
C'est en quelle année, ça?
Ah, oh man, c'était à peu 96,
près. Okay.
95.
Le problème n'est pas quoi.
Ouais. Sur la rive sud, j'avais mon petit deck que je jouais dans la cour d'école, puis je me suis dit, tabarouette, je vais aller jouer à Magic avec d'autres mondes. Puis ouais, ils m'avaient torché solide. Les autres, ils se tenaient au courant, c'était quoi les bons decks, là, tu sais, puis... Ouais, ça a pas duré longtemps.
Et voilà, un sort to plowshare, c'est ton hostie d'ange, puis on a la crise de paix pour un tour. Caroline, toi, t'as-tu déjà fait ça, un tournoi?
Ben, legit, je pense que mon vrai premier tournoi, c'était le pre-release à...
Moi aussi, je pense que c'était mon premier officiel.
Ouais, c'est ça. Si on exclut tout ce qu'on avait fait au magnifique club de jeux de rôle du cégep de Lévis-Lauzon, en dehors de ça, ouais, c'était vraiment mon premier.
Comment ça a été, toi?
Je me suis fait torcher solide, pour vrai. Mais mon deck était pas mauvais. Je me suis pris Simic, puis c'était quand même bien, mais j'ai sous-estimé la totalité de mes adversaires, ou presque. Fait que, ouais, ça... Mais j'ai j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai vraiment trippé. C'était vraiment le fun. Oui, j'ai adoré. Je vais en refaire d'autres et je serai plus performante.
Et voilà, bonne attitude. Ben, j'abonde dans ton sens. Moi aussi, c'était mon premier tournoi officiel. Et je dirais que si j'avais été juste un peu plus chanceux, j'aurais fini mieux que 2 victoires, 2 défaites. Milan, toi?
Écoute, moi, mon premier tournoi sanctionné, c'était le pre-release de Fifth Dawn dans les mid-2000.
Ah, oh, wow!
Ouais.
Ça, c'est capoté, ouais. Pareil que, je veux dire, ça fait comme 10 ans qu'on se connaît tranquillement, 8-9. Puis,
Ça fait 2008-2009, on est en 2018-2019.
Hein. Puis, on n'a jamais joué à Magic ensemble avant, là, comme 4-5 mois. Là. Ouais,
ouais,
c'est ça.
Ouais, c'est fou, pareil.
Fifth Dawn, c'est 2004.
Ouais, c'est ça. Fait que début 2000, Fifth Dawn, je m'en souviens, je m'étais fait laver parce que j'avais, je sais pas, 2004, je vais avoir 13-14 ans facile, là, tu sais.
OK.
Puis c'est ça. Puis après ça, le deuxième, dans le fond, tournoi que je... pour moi est plus un vrai tournoi compétitif, j'avais été à Washington aux États-Unis
Star City Games,
ouais, avec des amis, puis on avait tous joué le même deck.
OK.
En plus, c'était en 2010-2011, là, ça fait une dizaine d'années.
Tout le monde jouait le même deck.
Ouais, dans le fond, on était 4, on jouait tous le même deck. La raison de ça, c'est qu'on avait tellement tous joué tout le temps le même deck que c'est le plus de probabilité que tu sais comment jouer.
Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Parce que ça, c'est une loi de Magic que je rappelle à tout le monde à qui j'apprends comment jouer. Check tes affaires à toi. T'es mieux de jouer 12 games avec le même deck pour en venir à comprendre comment il marche. Essaye pas de tout prévoir ce que l'autre a pour toi parce que ça t'arrivera pas. Check tes flûtes à toi.
Mais je te dirais qu'en tournoi, mettons un FNM ou mettons un moderne, un mardi à ton shop local, dépendamment de tes shops, il y a des shops qui ont du monde qui joue très très bien, mais des gros tournois à plus que 200-300 joueurs là, généralement le play level est beaucoup plus élevé que ce que tu vois d'habitude, donc très important de faire attention aux cartes que les autres jouent et de connaître le format.
Ouais, le méta, tranquillement.
Ben, surtout le format dans lequel tu joues.
Ouais, 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 ouais.
Nous autres, c'était standard et il y avait Legacy, j'avais participé à Legacy.
Là, on parle de tournoi, on parle pas d'apprendre à un débutant.
Non, c'est ça. Puis j'ai gagné 3 rondes parce que le monde savait pas qu'est-ce que faisait Geist of St. Traft. Il pensait que Hexproof, il pouvait pas bloquer. Fait que j'ai gagné parce qu'il pensait
qu'il bloquait pas.
Parce qu'il me bloquait pas. Parce qu'il pensait qu'il pouvait pas me bloquer.
Mais ça, c'est un débutant, là.
Ben, c'est un. Tu sais, je veux dire, l'entrée du tournoi, c'est 50 US.
Ah ouais, non, mais c'est
4
vraiment...
jours. Tu payes un hôtel.
Ah, t'es supposé connaître.
T'es supposé savoir ce que tu fais.
Parce que même en 2011, Xproof existait déjà depuis un bon bout. Le mot comme tel est apparu, je pense.
Tant mieux pour lui. C'est ça qui arrive. Sinon, moi, ça me fait penser que je suis allé au Danemark vivre là pendant un an. Très très violent coup de foudre et rendu là-bas, en fait il y avait une salle de Magic dans un magasin de cartes au centre-ville de Copenhague et je suis allé quelques fois me mêler de pour mes affaires et j'avais un deck réanimateur quand même assez débrouillard avec un Dragon Mage là, celui que et j'avais des counter spells après ça Dragon Mage, c'est 2 rouges 5 colorless. Quand tu fais du dommage à un joueur, tout le monde jette notre main puis on pige cette carte. Ça, j'aime beaucoup.
C'est
ça,
comme c'est un wheel mais avec un dragon par-dessus.
Et dans ce temps-là, c'est encore type 1 et type 2. Type 1, ça c'est devenu vintage avec le temps et type 2, c'est devenu legacy avec le temps et on jouait vintage, on jouait type 1 et j'avais battu un gars qui avait des legit Mox et Black Lotus là, un 2 de 3 et j'étais très fier de moi. Un Tommy heureux qui vous parle au micro. Et donc, ouais, c'est pas mal. Ça va nous amener vers notre carte de la semaine. Puis là, ben, on n'a pas de sélectionné. Fait que... Caro, toi, ça serait quoi ta carte de la semaine?
Oh my god! Tel que mentionné dans un épisode précédent, moi et le nom des cartes, c'est vraiment excellent. Mais on en a vu plein tantôt de bêta, puis je me suis rappelé que j'adorais les Nightmares. C'était dans cette époque-là, hein?
Nightmare. Le cheval.
Le cheval, XX. Oui, étoile.
Et oui, puis c'est...
Ouais.
Ça a tout le temps été c'est réédité et tout. Et puis c'est rendu, ils ont rajouté le type cheval parce que c'est rendu quelque chose qui existe.
Attends, j'y arrive, je vais vous la sortir.
Très bonne carte. Oui, bravo. Ouais, j'ai souvent tué des hosties d'anges avec ça.
J'en avais de ça, je les adorais et ça a fait partie de. Ouais.
Ouais, un c'est 5 colorless, un noir pour son power toughness. Un cheval Nightmare Flying. Son power toughness est égal à ton nombre de swamp. Laurence, dans MTG Old School, y a-tu des gens qui jouent du Nightmare encore aujourd'hui?
Il y a certainement un individu dans notre playgroup qui est en amour avec Nightmare, effectivement.
Ouais. Ouais. C'est castable 6. C'est coûte quand même cher.
Ouais, puis il faut pas mal que ce soit
faut que mono des swamps, aussi faut que pour que mono ça vaille la peine. Jouer ça pour que ça vaille la peine.
Faut que tu sois mono noir, mais surtout, il faut que tu l'aimes suffisamment d'un amour assez pur, puis ouais. Ça va bien aller.
Mais comment ne pas l'aimer? Il est si beau, il me regarde dans les yeux et je ne vois que de la passion et... enflammée.
Ah, ouais, bon, fait qu'on est parti, on savait pas trop c'était quoi la carte de la semaine. Une voilà. Très belle ligne de notre collaboratrice Caroline. Merci beaucoup, ça va nous amener vers notre sujet principal de la semaine. Cette fois-là, on va parler de tendance actuelle de Magic depuis 2008, mais avant, go Bone! Jason, c'est toi qui as proposé ça, ce long sujet-là, parce que toi, tu dis que entre le début et 2008, et depuis 2008, il y a eu deux phases vraiment différentes, et dans le marketing, et dans la façon oui. Que Magic était monté et pensé.
Il y a quelqu'un qui a écrit récemment un article, Cedric Phillips, il avait publié ça le 4 décembre 2018, je vais le poster dans les commentaires. Ça s'appelle An Open Letter to the Pro Magic Community at Large. L'auteur, pardon, c'est A.D. Jameson. Il met pas son prénom. Okay. Puis il a fouillé pas mal sur l'histoire de Magic et les tournois, les protos, les trucs comme ça. Puis il a vraiment identifié deux époques dans l'histoire de Magic. Le proto, ça c'est le format où ce que les gens pro à Magic. Tu peux aller dans ce qui s'appelle des préqualificateurs, qui sont des tournois. Il y en a à chaque mois, je crois, à Montréal, presque. Vous regardez souvent, c'est les magasins qui
vont... Laurence, lui, s'intéresse à ce qui se passait il y a 20 ans.
Mais les qualificateurs des PPTQ, dans le jargon.
Okay. Pre-Pro Tour Qualifiers.
Ouais, quelque chose comme ça. Tous les magasins, là, vous regardez sur les pages Facebook des magasins, ils en tiennent souvent. Je sais que Expédition sur Saint-Hubert, en fait, des fois.
Ça, c'est-tu encore, mettons, t'amènes
ton... C'est des gros tournois de pro, okay. T'amènes ton deck, puis si tu réussis à te qualifier dans ce tournoi-là, là, à battre tout le monde, dans le fond, tu gagnes tu peux gagner pour une qualification pour aller à le deuxième niveau qui permet ensuite...
C'est quel type, ça? C'est quel format?
Ça va varier. Ils vont faire standard, seal, moderne.
OK, il y a toutes sortes de protos.
Il en reste legacy, mais ils sont plutôt rares. Il y en a un ou deux par année. Là.
OK.
Puis après ça, tu peux aller au Grand Prix.
Ouais.
Après le Grand Prix, si t'as assez de Pro Points, tu vas être invité au Pro Tour, etc.
Pour te faire inviter au gros tournoi, chaque set a son Pro Tour.
Okay.
Ça te prend assez de points. Puis là, il t'invite, c'est Wizard of the Coast qui paye le billet d'avion.
Ah oh boy!
Mais c'est ça, tu sais, c'est les pros des pros, là. Moi, ça fait longtemps que je joue à Magic, puis j'ai jamais ramassé assez de points pour me rendre là.
Okay.
Ça avait été commencé dans les années 90, puis Magic, tout son marketing, ils l'ont vraiment axé là-dessus tout au courant des années 2000. Ils se sont dit...
L'idée, c'était de créer des pros, des icônes là, du monde. Moi, je me rappelle avoir déjà acheté un booster, avoir eu un token qu'à l'inverse, il y avait une phase de super champion.
Ils se sont mis éventuellement à faire les joueurs qui gagnaient les Pro Tours. Après ça, ils faisaient des cartes promotionnelles avec leur face dessus qui étaient distribuées dans les boosters de tout le monde.
Avec le drapeau du pays, pour prendre ça international,
ouais,
le
world. L'exemple que j'ai ici, comme par exemple Raphaël Lévy, qui est un joueur français dont on le voit tout fringant dans sa mode alentour 2004. Là.
Le 2006. Hall of Fame 2006.
Donc c'est ça. C'est une façon d'inciter les gens, c'est de dire aux joueurs, toi aussi, si tu t'investis beaucoup dans Magic et t'achètes beaucoup de cartes, tu peux devenir un pro et connaître la gloire d'être reconnu par tous tes pairs comme étant un pro player. Ils ont vraiment axé tout au long, jusqu'en 2008, là, dans le fond, toute la première moitié des années 2000, c'était
la culture
des champions. On le voyait même dans les sets, là, comme dans Odyssey, où ce que ça tourne autour de t'as des cartes qui représentent des arènes, des colisées, des pit fighters. C'est un peu la culture, notre technicien ici connaît un peu ça, là, la culture de la lutte.
Oui, ben oui, Martin Godette, l'animateur du Corps et Rond sur Production Podcast, qui est technicien et qui n'a pas de micro. Martin, ça te fait très bien le poids que t'as pris. Continue.
Donc, c'est ça. Les Magic était beaucoup axé son marketing sur tu vas devenir un pro, tu vas être connu, les gens vont copier tes decks.
Le oui, problème. Parce qu'il les vendait aussi. Ouais, il y a eu les Gold Bordered, le deck qui a gagné le Pro Tour en 2004. Jean Gobelin, blabla, tu pouvais l'acheter la copie, les cartes valent moins cher. Et Lando, c'est autre chose. Là, mais...
Il vendait un rêve en quelque sorte. Ouais, c'est que tu vas devenir un pro. Le problème, et puis aussi, les sets étaient de plus en plus complexe. Je pense que Time Shift sorti en 2008, Time Spiral, c'est le set qui a eu le plus de mécaniques différentes. Donc si tu draftais,
mais c'était volontaire ça par contre.
C'était volontaire, ça caterait
les choses qui s'en viennent. Là.
Oui, mais c'était ça, c'était de dire tu sais comme on rend le jeu de plus en plus complexe.
Ouais.
Puis Mark Rosewater, il avait dit qui était le designer de Magic là, sur son podcast Drive to Work, il a dit qu'aux alentours de 2007-2008, ils se sont vraiment rendu compte que les ventes de Magic baissaient.
Okay.
Aux alentours du set de, après Kamigawa, leur win, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un power creep, qu'il n'y avait plus de nouveaux joueurs. Puis surtout que tout le jeu s'adressait surtout à des pros dans leur marketing.
T'as rendu trop compliqué.
Le jeu était trop rendu compliqué pour les nouveaux.
Okay.
Puis t'as vraiment eu là un déclin progressif, ouais. Parce que dans le fond, c'est les quelques années avant, c'était les anciens joueurs qui continuaient, mais progressivement.
C'est ça.
On a tout fait ça. Tout le monde.
J'ai arrêté avant l'Orwin.
Parce
que ça m'intéressait plus. Il y avait des ninjas puis des affaires qu'on se foutait. Puis c'était juste. Ça devenait trop compliqué pour jouer puis se garder à l'affût. Puis Legacy, pour l'âge que j'avais, était encore trop cher pour moi. Donc j'étais pris entre jouer quelque chose qui me tentait pas. Ou pas avoir l'argent pour jouer ce qui me tentait.
Ouais, je comprends. Ouais, c'était lose-lose, là. Puis il veut pas si t'as pas de nouveaux, ou si les nouveaux t'y respectent pas, tu fais que leur intérêt s'en va rapidement.
Ben,
mais là,
c'est les nouveaux, stagne, mais faut que tu gardes en compte que les joueurs que ça fait longtemps qu'ils jouent, si eux autres jouent juste, mettons, à standard, ou à extended dans le temps, mais personne joue à extended parce que c'était de la boîte, là. Mais ceux qui jouent à standard, si tu fais des choses qui les intéressent pas, ils paieront pas pour. T'sais.
C'est ça.
Moi, ça m'est arrivé 3 fois dans ma vie d'arrêter parce que standard, c'était trop de la merde.
OK.
Puis aujourd'hui, je ne joue pas à standard. Quoique les éditions qui s'en viennent sont plaisantes parce que c'est Ravnica.
Oui.
En limité. Même le Dominaria qu'il y a eu.
Ben, exact.
Moi, c'est le meilleur set que j'ai vu en longtemps.
Pour moi, limité, c'est pas standard. Je parle de standard construit.
T'sais. OK.
C'est ça qui va. Parce que limité, à un moment donné, ça coûte plus cher. Tu payes 15$ à chaque semaine, ou même 2 fois par semaine pour jouer. Maintenant, t'as fait le tour des
draft, sets, là, draft, ça peut coûter cher à Londres. En 2008, Hasbro, qui est la compagnie qui détenait depuis une dizaine d'années Wizard of the Coast.
Parce que là, c'était Wizard, puis là, ils ont acheté TSR, puis à un moment donné, grosse passe de cash.
Ils se sont fait acheter par Hasbro. Hasbro, c'est ceux qui font les G.I. Joe, les Transformers et Monopoly.
C'est pas mal le Satan du monde des jeux avec
Brian Goldner est devenu le nouveau PDG de Hasbro en 2008, puis il a vu le déclin de Magic, puis il a décidé de faire un gros ménage. Puis il a parlé avec ça, c'est Mark Rosewater qui en parle dans son podcast. Il a décidé de faire le New World Order, c'est-à-dire de simplifier les règles. C'est vraiment drôle parce qu'ils ont pris un nom aussi. Ceux qui se demandent là, qui est Brian Goldner? Brian Goldner, c'est pas mal le gars qui est le plus responsable du fait qu'il y a maintenant 4 films de Transformers, je pense.
Ouais, c'est
ouais. Fait que Brian Goldner
il a réjuvénaté Magic, mais il y a 4 films des trucs.
Mais le gars pour. Tu sais que si ton but c'est de faire du cash, là, une compagnie.
C'est un très bon CEO. Là.
C'est un très bon CEO parce qu'il a dit, dans le fond, l'important c'est pas. Pour vendre un produit, c'est l'expérience. L'expérience du client.
Faut le rendre accessible.
Et tout.
Ton client.
Puis il a fait miroiter tous les produits dérivés. Fait que ils ont simplifié les règles de Magic beaucoup à partir de Alara.
OK.
En 2008. Donc c'était 2 ou 3 nouvelles mécaniques par set. Puis ils se sont mis à faire plein de produits dérivés sur Magic, puis ils se sont mis surtout à arrêter de fixer sur les pros. Tu sais, les trucs de pros, ça a continué les protos pis ça, mais ça ne faisait plus partie du marketing.
Ils l'ont laissé aller tranquillement, pas vite, le focus était plus là.
C'est là qu'ils ont introduit, en fait, les Planeswalkers. Mais les Planeswalkers avaient été introduits dans Lorwyn, mais ils se sont dit, tu sais, c'était un peu ça qui s'en venait. C'est-à-dire, maintenant, le visage de Magic, ça ne sera plus...
le champion.
Milan à Montréal.
C'est ça.
Tu sais, qui veut devenir un pro, mais qui n'a pas ce qu'il faut.
Ça va devenir Jace.
Ça va être nos visages, ben c'est ça, c'est les personnages, puis on va créer des histoires complexes et tout, puis on va pouvoir vendre plein de produits dérivés. Puis ils se sont aussi dit, ils ont une règle dans la production des sets de Magic, 50% des personnages représentés sur les cartes sont des femmes, ou des personnages féminins.
Ça c'est depuis 2008, ça?
Dans le New World Order, là, c'est de faire la représentativité.
Ça, depuis 2008, voyons donc. Il y a assez d'Illuminati, ça attend.
Puis c'est ça, ils sont mis à faire plein de produits dérivés de Magic, des board games sur Magic.
Le fabuleux Monopoly de Magic, le parce que Hasbro. Oui, hein.
Y a-tu un Monopoly de Magic?
Ben, pourquoi tu le demandes?
Probablement.
Il y a 4 Monopoly de Star Wars, c'est sûr qu'ils en ont fait un de Magic. Là.
Fait que c'est ça.
C'est à eux autres qu'ils possèdent les droits sur.
Ils se sont mis à engager là, à mettre plus de talent du côté de développer les histoires, avoir des meilleurs artwork.
Moins de rengaine.
Moins de rengaine, de trucs de pro, pis ça. Puis c'est là que, tu sais, à partir de 2008, là, que l'histoire de Magic a changé un peu. Puis
l'approche de Magic, dans le sens.
Oui,
c'est pas l'histoire
marketing.
Du monde de Magic, non. C'est le contour.
L'approche marketing, c'est ça, pour vendre des paquets.
Okay.
Puis, Brian Goldner, mais c'est pas lui, en fait. C'est tous ceux qui travaillent pour lui, en fait, là, à Magic. En changeant complètement ça, là, rendant le jeu plus simplifié, plus axé histoire, puis ça, Magic a recommencé à croître. Puis les grosses années, là, de 2008 à 2011, c'était une croissance continuelle. Il n'y a jamais eu dans l'histoire autant de gens qui jouent à Magic que maintenant en 2019.
Ouais.
2018 a été leur année record, by the way, avec le set Dominaria puis Guild of Ravnica. Et on va voir si ça va se maintenir. Mais on voit un peu que le changement qu'ils ont fait, ça a amené beaucoup de nouveaux mondes. Ils ont rendu le jeu plus accessible.
Démocratiser la patente un petit peu.
Et voilà. Puis c'est la fin de ça.
Est-ce que tu penses que ce changement de paradigme effectué par le CEO ou les têtes dirigeantes a comme aidé la courbe de puissance des cartes? Est-ce que ça l'a comme endigué ça un petit peu, de tout le temps essayer de sortir un peu plus fort que le set d'avant?
Ben, je crois... Tu sais, on t'avait parlé dans l'épisode 2 de Healer Hawk, là, Flying avec Lifelink.
Lifelink qui coûte
C'est très fort en limited.
C'est fort en tabarnak.
Mais en même temps, surtout que récemment, j'ai recommencé à jouer à MTG Old School. On va avoir des tournois bientôt. Puis, tu sais, ça me permet d'avoir un deuxième regard sur les vieilles cartes. Puis, tu sais, t'avais des trucs vraiment puissants à l'époque.
Ben, les Hypnotic Spectre.
Qu'ils ont nerfé depuis, tu sais, des Hypnotic Spectre, Imp Tutorax, tu vois plus ça dans Magic. Fait que t'as certains aspects de Magic, notamment les créatures qui sont plus puissantes qu'avant. Mais je trouve que les Sorcerer et les Instant, ils ont pas mal réduit en force. Puis même là, je me rappelle tout de 2010 à 2015, il y avait pas beaucoup de removal fort. Mila, je suis sûr que tu t'en es rendu compte. Tu sais, il y avait Heroes dans le fort pis ça, mais le removal coûtait cher, surtout en draft. Tu sais, c'était du casting. Tu sais, tu destroy
une
créature.
En limité, ton removal va toujours coûter cher parce que tu veux pas être capable de tuer quelque chose pour deux.
Oui, mais il arrivait qu'en standard, quand t'as certaines cartes comme Emrakul de Promised Land était sortie, il y avait pas de réponse.
Qui ça?
Emrakul.
Le deuxième, l'autre.
Le deuxième. Jusqu'en 2015-2016, ça manquait de réponse, c'est-à-dire des instants ou sorcery pour péter des créatures. Puis je trouve que récemment, surtout que M19 sorti l'été dernier, on dirait qu'ils ont lancé le balancier dans l'autre bord.
Mais c'est toujours comme ça. Ils font toujours une espèce de va-et-vient entre. Ils vont sortir des créatures ou des enchantements, exemple, qui n'ont pas beaucoup de réponses.
Ouais.
Puis à un moment donné, ça va être les réponses à ça.
Qui sort dans le set après.
C'est un peu débalancé. T'sais, dans un set, c'est très rare, en tout cas de mon expérience, que le set est super balancé pour s'auto-gérer. À part si tu joues, mettons, juste ce set-là.
Ouais.
Mais si tu l'intègres dans Standard, ça va débalancer le reste de ton format. T'sais.
C'est sûr. Mais moi, je trouve que mon point, c'était, je crois pas que c'est toutes les cartes sont plus fortes qu'avant. Je pense que c'est dans certains domaines, ça vient puis ça part.
Je te dirais que les créatures, en règle générale,
sont plus fortes.
Après, mettons, 2004, là,
ouais.
C'est pas mal plus fort que près 2004.
Ouais.
Peu importe.
Je suis convaincu aussi.
Mais en termes de sorcery puis d'instant, je pense que le power level plus comme old school est pas mal plus élevé que présentement, même s'ils ont printé des choses comme, tu sais, Mental Misstep, un Phyrexian bleu, donc deux de vie ou un bleu,
ouais,
pour Counterspell, un,
ouais,
spell qui coûte 1.
Ouais.
Ça, c'est cassé. Tu peux pas faire ça. où t'as l'autre qui remove une carte dans un graveyard, puis toutes les copies de ton deck pour un Phyrexian noir.
Shit, c'est fort. Final Extraction.
Ouais, c'est pas ça, mais oui. Surgical Extraction. Ouais. T'sais, avant, il y en avait fait un qui coûtait un noir, mais que tu pouvais pas counterer. Sauf que ça, c'est moins fort parce que Surgical, tu peux payer 2 de vie.
Tout ce que tu peux payer de la vie, ça touche tout.
Là,
ouais, c'est ta vie devient ton mana.
Tu sais, Birding Pod, c'est un enchantement qui fait que tu peux aller chercher une créature qui a un cost, mettons 4. Mettons que ta créature sur le board est 4, tu la sacrifies, ben tu peux aller chercher 4 plus 1. Mais t'es obligé de faire, mettons, le plus 1 mana à chaque fois. Fait que là, il y avait des decks qui rampaient. Tu mettais un 2, puis là, avec ton 2, tu podais ta carte, ta créature de 2, t'allais chercher une 3.
C'est qu'ils l'ont banni, d'ailleurs.
Comment?
Burning Pod, ils l'ont
banni. Ouais, ben c'est ben trop fort, là, je veux dire. Tu fais juste mettre des créatures qui coûtent cher, qui sont pas bonnes, qui ont des triggers Battlefield, entrée ou sortie, ou les deux, même.
Ouais, ouais.
Fait que là, ça finit jamais. Puis tu peux payer de la vie pour l'activer.
Ouais, ouais, ouais. Fait que ça peut être un trigger que tu gagnes de l'énergie pour padder, pour pouvoir en refaire un autre fois.
Bah généralement, je veux dire, tour 5-6, tu te retrouvais avec plus de board ou plus rien sur ton board, puis l'autre t'avait attaqué à chaque tour, tu sais.
Hey, sinon, Jason, je me souviens dans le temps, un épisode passé, t'as dit que Magic, y en avait qui disaient que le draft était l'avenir du jeu.
Oui.
Ça a pas changé en 2008
Mais ça, c'est les débuts de Wizard of the Coast. Ils ont compris que si tu veux, parce que eux, leur argent, c'est pas les singles.
Ils veulent vendre des boosters. Ben oui.
Ils veulent vendre des boosters. Fait que c'est pour ça qu'à partir de, je crois que c'est le set Mirage a été le premier qui a été fait entièrement pour être drafté.
Mirage, ça c'était les Flanking. Ça se passe en Afrique, entre
guillemets. C'était sur Dominaria, mais sur un continent qui est comme l'Afrique. C'est de là que Teferi vient.
Teferi, on le salue.
Magic, ça a toujours été leur pain puis leur beurre, c'est de vendre des boosters. Donc, c'est sûr qu'ils vont tout le temps privilégier le draft et le format standard.
C'est vraiment le fun. Vendredi, François, il a amené des boosters pour qu'on fasse un autre draft vendredi il y a quelques semaines. Et c'est sûr que François, il y a de la misère avec ça, là, mais on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Ben,
J'aime ça parce qu'il est dans la pièce, mais il n'y a pas de micro. Il ne peut pas se défendre. C'est hot.
On pointe qu'on rit. Ah! D'ailleurs, à ce sujet-là...
Tu veux prendre mon sujet?
Oui, mais il y avait beaucoup de monde qui se plaignait. Ah, les nouveaux sets, il n'y a pas de bonne carte pour moderne, il n'y a pas de bonne carte pour...
Il y a tout le temps des bonnes cartes.
Mais moi, je trouve qu'à partir de l'année dernière, ils ont commencé à sortir là, des answers, là, comme Alpine Moon, qui est une espèce de Blood Moon nerfé. Il a commencé à amener...
Il y a le totem aussi là, pour tuer les Dectrons, là.
Ouais.
Un verre, tu pètes un de tes crises de laine d'Urza, puis là, va te chercher ta montagne.
Et voilà.
Ben, j'en ai pas, ben, calme-toi, esti.
Puis dans le set de
19?
Ben non, je pense que c'est celui présent, c'est Ravnica, je pense. Ils ont fait une carte que tu nommes une carte, puis tu peux aller chercher jusqu'à 4 copies, mais c'est n'importe quelle carte.
Oui, oui, c'est.
Si tu joues, mettons.
Guild of Ravnica, ouais.
Ouais, c'est.
C'est une carte de... dans ton deck ou que tu removes de l'autre.
Tu vides son.
Ok.
Fait que, mettons, tu dis, puis tu peux search, peu importe. Fait que déjà, tu peux voir le deck de l'autre pour 3, c'est un bleu, un noir, un colorless, quelque chose comme ça. Et puis, tu peux dire, mettons, si tu joues contre Tron, mais ok, Power Plant. Ben, je vais tout t'enlever tes power plants. Là, oublie ça, ton tronc, il marche plus, là, tu sais. Tu peux remover.
Ben oui, je l'ai, celle-là. Ben oui, je l'ai, je l'ai.
Tu peux
remover
des basic lands, tu peux en mettre 4 copies, fait que t'as jusqu'à 12.
Oui, tu peux aller prendre des basic lands, fait que s'il n'y a pas de bout.
16 cartes.
Tu peux prendre des basic lands.
Oui, exactement.
C'est ça. C'est vraiment fort.
T'as accès à 4 cartes, en tout cas, pénis dans la gorge, comme dirait certains.
Ça, c'est comme... Le monde, il voit pas ça encore, mais je pense qu'éventuellement...
C'est un more ego.
Exactement. C'est le genre de truc...
Un colorless, un bleu noir.
Choose a name. Ça va bien vieillir, t'es en
train de... Ben, je pense que ouais.
Ah oui, ça c'est bon. Ça l'arrête son deck complètement.
Puis il y a un sphinx aussi dans la dernière édition. Deux bleus, deux colorless. Tu peux le révéler de ta main premier tour, avant le premier tour, en fait. Puis tu scry 3.
OK.
Puis quand il est en jeu, tu scry 1 à chaque upkeep. Fait que tu peux scryer out ta carte avant de la piger.
Ouais, c'est quand même assez cool ça.
Pour 4 là, 4-4 flying. Juste 4-4 flying pour 4, c'est bon.
C'est bon.
Avec les habilités en plus.
À scry à chaque tour.
Air Elemental
qui est pas
legendary,
ça veut dire que si t'en as 4 sur le battlefield, tu peux scryer 4 fois si ça te tente.
Ouais, si tu veux t'équiper pour veiller tard.
Ah oui,
c'est apprécié. Laurence, as-tu une opinion là-dessus ou c'est des affaires trop récentes à ton goût, mon toi?
Ah non, ça fait longtemps que je regarde plus les spoilers puis ces genres de choses.
choses-là.
Je te regardais regarder le mur, là. Puis,
non, mais je trouvais ça vraiment fort, ces cartes-là.
T'as fait le deuil des Magic modernes. Ouais.
Ben, moi, ça me rappelait le Jester's Cap.
Ouais.
Jester's Cap, c'est un artefact qui coûte 4. Puis là, pour ça, il arrive en jeu. Puis là, pour ça, il faut que tu l'actives. Puis là, tu vas aller chercher 3 cartes dans le deck de ton adversaire.
Que tu remove.
Tommy a une bonne anecdote avec cette carte-là. Il dit c'est la carte que quand l'autre il la casse sur toi, tu t'en vas te faire souper parce que ça va être long. Parce que tu connais pas le deck de l'autre, fait que puis là faut que tu check les cartes, là tu compares que ces gens là.
C'est sûr, ben là que ces gens. Ah ouais, c'est. Oui, ça a déjà été des moments très longs de ma vie. Hey, sinon je pense que ça va être ça pour cette semaine. Merci beaucoup, Jason. On vient de passer au travers une nouvelle tendance. J'ai l'impression que pour une fois, on est content que le cash aille gagner. C'est moi qui l'a dit. Merci beaucoup à Milan.
Ben, ça me fait plaisir. Puis, je suis un peu d'accord avec toi. C'est le Disney des jouets, mais quand même. Ils font des bons moves, des fois.
Ben oui. Dans ce cas-ci, on va le dire. Caroline, merci beaucoup.
Yay!
Et Laurence, merci beaucoup d'être repassé encore une fois.
Plaisir.
On te souhaite encore du plaisir. C'est le 23 mars à l'affût sur Papineau-Rosemont. Vous faites un tournoi old school.
Absolument, tournoi old school. Soyez là, ça va être malade.
Et voilà, c'est quoi? C'est des cartes qu'il faut que le artwork soit de 95 ou avant.
Ouais, allez voir EternalCentral.com pour les règles.
Et voilà, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Martin Godette de Coréron et de Production Podcast. On vous rappelle qu'on a de la merch en ligne. Allez voir sur le site de Production Podcast où, en fait, tout se retrouve sur notre page Facebook. Et si vous voulez nous aider à populer cette page Facebook, la rendre encore plus québécoise comme Podcast de Magic, n'hésitez pas à m'écrire à moi, Tommy Godette, à Jason Keys aussi. Keys, ça s'écrit tout croche, fait que c'est plus facile de me retrouver.
Pensez pas le Facebook de la page.
C'est ça, c'est sûr qu'on va se parler, on veut vous avoir avec nous. Merci beaucoup, Jason.
Merci.
Allez, là-dessus, on vous souhaite d'être le moins manascrou possible et à la semaine prochaine!
Tu veux participer à l'évolution de Production Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast@commercial.icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com.